Bonjour à tous, frères et sœurs, encore une fois, je vous souhaite un bon sabbat. Voilà. Notre lecture biblique pour aujourd'hui, pour ce bref message que je nous ai préparé, se trouve dans 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, versets 2 à 4. 1 Roi, chapitre 11, versets 2 à 4. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Puisse Dieu ajouter sa bénédiction à cette lecture biblique et aux pensées qui sont directement reliées et que par la grâce de Dieu ici nous désirons explorer. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, je viens à vous en ce sabbat pour vous présenter un message que j'ai intitulé, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, le détournement du cœur. Le détournement du cœur, comme nous en obtenons l'inspiration à travers ce passage ici clé de 1 Roi chapitre 11 au sujet du détournement du cœur de Salomon par ses nombreuses femmes païennes. Mais nous allons avoir l'opportunité, l'occasion aujourd'hui d'explorer le sens et les implications de ce passage-là. Mais avant de pouvoir faire cela, je vous propose de faire une brève étude biblique par laquelle nous allons pouvoir aller plus en profondeur dans ce passage clé que nous venons d'avoir. Tout d'abord, vous aurez remarqué que nous lisons souvent dans la parole de Dieu au sujet du cœur, n'est-ce pas? Le langage du cœur est souvent employé, à savoir de notre cœur, du cœur d'autres hommes et d'autres femmes, mais ce qui est le plus important ici, c'est la question de notre cœur. Et nous voyons ce langage employé dans ce sens, notamment par Jésus dans Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38, nous avons ce fameux passage que nous connaissons bien, qui nous est familier et que nous voulons explorer à la lumière du sujet d'aujourd'hui, à savoir le détournement du cœur. Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Que dit Jésus? Que lui dit-il à cet homme qui lui demanda quel est le grand commandement de la loi? Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous avons donc ce langage ici au sujet du cœur, à savoir tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, puis de toute ton âme, de toute ta pensée. Et à cela, nous pouvons ajouter également les paroles de Proverbes chapitre 23, verset 26. Proverbes chapitre 23 et le verset 26 nous dit le suivant. Proverbes 23, verset 26, il est écrit: mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux prennent garde à mes voies. Donc c'est bel et bien le langage de Dieu qui s'adresse à nous, ses enfants, disant ainsi, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. » Et ainsi, de toute évidence ici, sans avoir même besoin d'aller dans des détails très élargis du sens de ces deux passages que nous venons de lire, ainsi que le troisième par lequel nous avons débuté, nous voyons sans équivoque que par ce langage, Dieu fait référence et fait même appel à nos affections. Donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, notre cœur? Nos affections. D'ailleurs, la science nous apprend qu'il y a un lien étroit entre notre cœur physique et notre cerveau. D'où, donc, ce qui peut nous aider à comprendre pourquoi Dieu emploie ce langage du cœur, là où est la source de la vie. Mais, quoi que ce soit la source de la vie, parce que cela pompe le sang et l'oxygène, donc, dans notre corps, la source de la vie, c'est également et c'est surtout ce que nous pensons. D'où donc le langage de Jésus lorsqu'il disait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. » Et dans Proverbe, chapitre 23, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. » Tes yeux et donc tes pensées, parce que les yeux, comme on dit souvent, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc lorsque Dieu demande à ce que nos yeux prennent garde à ses voies, il demande à ce que notre âme et donc nos pensées s'attardent sur lui. Mon fils, donne-moi ton cœur. À cela, nous ajoutons également les paroles du psaume 119. Le psaume 119 et paragraphe 2 qui nous dit ceci. Psaume 119, pardonnez-moi, pas paragraphe, verset 2. Le psaume 119, verset 2. « Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur. » Vous voyez donc l'appel aux affections. « Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et à cela aussi, on peut également contempler les paroles du Proverbe, chapitre 4. Proverbe avec un S, chapitre 4, verset 23, où ici, une fois de plus, cette exhortation est donnée, à savoir « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Qu'est-ce que c'est ? « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. » Pourquoi ? Parce que c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Quel cœur ? Notre pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose que l'on garde. Que tes yeux prennent garde à mes voies. Nous voyons donc sans ombre d'un doute et le langage moins imagé se trouve dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Versets 1 et 2, où l'essence de cette vocation qui est la nôtre est exprimée en des termes plus compréhensifs, disons. Colossiens chapitre 3, verset 1, nous lisons, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, etc. » Et donc verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, etc. » Donc, qu'est-ce que c'est ? Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Mon fils, donne-moi ton cœur, affectionne-toi, mets tes affections sur moi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Garde-le donc des choses d'en bas, des choses de la terre. Garde-le et dirige-le vers le ciel. Donne-moi ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On voit ici donc, sans l'ombre d'un doute, le sens à la fois imagé et concret et littéral de ce mot, cette expression et ces nombreuses expressions sur et qui impliquent notre cœur. À cela, j'aimerais que nous puissions lire et ajouter la citation suivante qui se trouve dans « Avec Dieu chaque jour », page 9, paragraphe 2, et ensuite paragraphe 3. L'Éternel dit à chacun de vous, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Il voit vos troubles, il sait que votre âme est atteinte par le péché, et il désire dire à chacun de vous, « Tes péchés te sont pardonnés. » Le grand médecin possède un remède pour chaque maladie. Il comprend votre cas et il sait comment vous guérir de vos erreurs, quelles qu'elles soient. Ne voulez-vous pas vous confier à lui ? Plus loin, il est écrit, « Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos affections, afin qu'il produise en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir et qu'il vous rende apte à la vie éternelle. » Qu'est-ce que c'est? Dieu nous demande que nous lui donnions notre cœur, et cela équivaut à, je cite, lui livrer, littéralement comme c'est marqué en anglais, toutes nos facultés, tous nos talents, toutes nos affections. Lorsque nous livrons à Dieu, que nous consacrons à Dieu toutes nos facultés, tous nos talents, toutes nos affections, cela revient, bibliquement parlant, à lui donner notre cœur, à l'aimer de tout notre cœur. Lorsque nous lui livrons cela, lorsque nous lui consacrons tout cela. Qu'est-ce que c'était? Il dit à chacun de nous, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il veut faire avec notre cœur ce qu'il désire opérer, à savoir nous rendre aptes, produire en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir et nous rendre aptes à la vie éternelle. Tout cela pour dire que, donc nous avons vu, l'appel à donner à Dieu notre cœur, c'est un appel à nos affections. Et cela va nous permettre ici de jeter un pont sur la réflexion que nous cherchons à avoir aujourd'hui concernant le sujet de notre méditation présente sur le détournement de notre cœur. Donc, à la lumière de ce fondement de compréhension sur l'appel de Dieu pour notre cœur et pour toutes nos affections, nous voulons explorer donc la question du détournement de notre cœur et de tous ces éléments et moyens qu'utilise l'ennemi de nos âmes pour détourner nos affections de Dieu, de ce Dieu donc qui demande toutes nos meilleures affections. Nous voulons explorer cela à la lumière de ce passage que nous voulons lire de nouveau dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11 verset 1 et suivant. Nous avons vu, Dieu nous dit, « Mon fils, donne-moi tout ton cœur. » Et ici nous lisons au sujet d'un homme dont le cœur fut détourné. Lisons-le, 1 Roi chapitre 11 verset 1. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Éthiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha à ces nations, par l'amour, à ces nations ou à ces femmes. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu comme le roi, comme le cœur de David son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Chémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fut indigné contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Et lui avait même donné ce commandement exprès de ne point suivre d'autres dieux, mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé, etc. Nous voulons ici non seulement nous concentrer sur la grande erreur de Salomon et déplorer et nous lamenter sur son idolâtrie, mais tirer des leçons qui ont une valeur pour nous personnellement. Nous lisons au sujet de Salomon que parce que ces femmes, ces nombreuses femmes, avaient et détournèrent son cœur, nous lisons à son sujet que son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu comme le cœur de David son père. Ce qui nous aide d'ores et déjà à discerner que la question du détournement du cœur est directement liée à la perte de l'intégrité du cœur vis-à-vis de Dieu. Nous lisons que son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David et comme David l'avait lui-même été avec Dieu. Il est écrit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Tel est le langage biblique. Et à cela, nous pouvons ajouter la citation suivante qui nous aide à faire sens de ce que nous venons de lire. Grâce à l'élargissement de l'esprit des prophéties, je lis dans Testimonies for the Church, volume 4, page 508 et paragraphe 1. Premier paragraphe. Dieu avait formellement interdit à son ancien peuple de se marier avec d'autres nations. On prétend aujourd'hui que cette interdiction avait pour but d'empêcher les Hébreux d'épouser des idolâtres et de se lier à des familles païennes. Mais les païens étaient dans une situation plus favorable que les impénitents de notre époque qui, ayant la lumière de la vérité, refusent obstinément de l'accepter. Le pécheur d'aujourd'hui est bien plus coupable que le païen, car la lumière de l'Évangile brille avec clarté tout autour de lui. Il viole sa conscience et se comporte en ennemi juré de Dieu. La raison invoquée par Dieu pour interdire ces mariages est la suivante. « Car elle détournerait de moi tes fils. » Ceux qui, dans l'ancien Israël, se hasardèrent à ignorer l'interdiction de Dieu le firent aux dépens de leurs principes religieux, c'est-à-dire en les sacrifiant. Prenons par exemple le cas de Salomon. Ses femmes détournèrent son cœur de son Dieu. Ces femmes détournèrent son cœur de son Dieu. Donc nous voyons ici quelque chose d'intéressant, ce qui nous permet de voir, de recadrer ici ce qui se passait, c'est-à-dire que, je cite, « Dieu avait formellement interdit à son ancien peuple de se marier avec d'autres nations. » Et ensuite, l'esprit de prophétie s'en va mettre en lumière le fait que les pécheurs d'aujourd'hui sont bien plus coupables que les païens d'antan, parmi lesquels Salomon d'ailleurs était allé trouver ses femmes, ainsi que ses concubines sans doute. Donc, cela peut nous aider Et cela nous pousse à la question, à savoir quelle était l'injonction divine destinée à préserver Israël, son peuple, de l'idolâtrie des nations environnantes. Vous le trouvez dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4, où il est écrit: Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, verset 2, et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce, tu ne t'allieras point par mariage avec elles, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car, verset 4, c'est celui qui est cité, car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous et il t'exterminerait promptement. Donc, telle était donc l'injonction que Dieu avait donnée à Israël pour les préserver de l'idolâtrie des nations environnantes, à savoir, ses femmes, ses filles, s'il les donnait à leurs fils, détourneraient de moi tes fils et ils serviraient d'autres dieux. Telle était donc l'interdiction que Dieu avait solennellement donnée à son peuple vis-à-vis des mariages, des alliances par le mariage, ce qui était une coutume assez fréquente, ce qui d'ailleurs continua de se faire jusque dans notre passé récent, dans l'histoire de l'Europe. Cela s'est souvent fait entre les différents royaumes. Pour éviter les guerres, on faisait des alliances par le mariage, de telle sorte que maintenant les postérités devenaient liées par le sang. C'est ainsi que des paix étaient ratifiées, étaient sécurisées, étaient garanties par les mariages. Mais Dieu avait dit, vous ne ferez aucune alliance avec les nations que je m'en vais vous livrer, toutes ces nations plus grandes et plus puissantes que toi. Tu les voueras à l'interdit, tu ne traiteras point alliance avec elles. Pourquoi? Tu ne t'allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu n'en prendras point leurs filles pour tes fils, car, si tel était le cas, et le cas échéant, leurs filles, détourneraient tes fils, comme c'est marqué en anglais, tes enfants, de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Tel était donc le principe qui, jusqu'à aujourd'hui, est valable, que l'on retrouve d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et maintenant, ce vers quoi cette interdiction de mariage s'étend jusqu'à aujourd'hui, vis-à-vis des mariages entre des croyants et des incroyants, mais nous voulons aller plus loin que cela. Nous voulons aller plus loin que cela pour comprendre le principe spirituel sous-jacent de cette question du détournement du cœur, notamment dans l'illustration magistrale du cœur détourné de Salomon, du roi Salomon. Et la question qui nous vient, c'est la suivante. Est-ce que Jésus a élargi ce danger du détournement de notre cœur à tous les autres membres de la famille? Parce que là, nous l'avons vu et nous obtenons la leçon à travers le passage biblique et à travers l'esprit de prophétie vis-à-vis des mariages entre les croyants et les incroyants. Mais la question, c'est est-ce que Jésus a élargi ce danger du détournement de notre cœur également au cercle élargi et familial, au cercle élargi de la famille? Lisez avec moi le passage de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu chapitre 10, verset 34. Il est écrit ici, je lis Matthieu chapitre 10, verset 34 jusqu'au verset 39. Je commence avec le contexte et ce qui va tout de suite prendre son sens, c'est à partir du verset 36 et 37, etc. Je lis au verset 34. Jésus disait, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Et le verset 40 peut être intéressant ici. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez quelque chose ici de très intéressant en lien avec ce que nous étions en train de lire et de contempler vis-à-vis de Salomon, dont le cœur fut détourné par la multiplicité de ses femmes? Ce qui est intéressant ici, c'est que quoique nous pourrions avancer l'idée que le détournement de son cœur était lié à sa polygamie, la Bible nous met surtout en garde vis-à-vis du fait que ces femmes étaient et appartenaient aux nations païennes. Et nous avons lu également l'esprit de prophétie qui s'en va clarifier le fait que les pécheurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire de notre génération, sont plus coupables encore que les païens d'alors, quand bien même ceux-là sacrifiaient leurs enfants à leurs idoles sur des autels et faisaient toutes sortes d'abominations qui aujourd'hui nous semblent absurdes. Toutefois, l'esprit de prophétie s'envoie nous clarifier le fait que les pécheurs d'aujourd'hui, avec toute la lumière brillante de l'évangile, sont plus coupables à cause de leur rejet de la vérité que ces païens-là. Et toutefois, ces païens-là, avec qui Salomon était grandement en relation par le moyen de ses mariages, parce qu'il fit alliance par tous ses mariages, Salomon n'était pas uniquement intéressé dans les femmes. Ce qui l'intéressait, c'était les alliances avec les nations, parce qu'il aimait le monde. Salomon était quelqu'un de profondément mondain. Toutefois, bien entendu, il était quelqu'un qui aimait les femmes, ça va sans dire, mais l'esprit de prophétie nous montre que son amour, et d'ailleurs, la manière dont c'est écrit dans notre version Osterwald, c'est que, je le lisais ici, Salomon s'attacha à ses nations par l'amour. C'est intéressant parce que dans d'autres langages, dans d'autres versions, les mots employés semblent faire référence à son attachement à ses femmes, ce qui est également vrai, mais principalement ici, ce que le passage nous fait voir, c'est son attachement à ses nations et à leur culture, et donc à leur paganisme. Salomon était quelqu'un de très intéressé par la culture des nations, la culture qu'il cherchait à promouvoir dans son royaume, et c'est cela qui détourna son cœur. C'est cela qui fit que le diable avait une terrible emprise dans son cœur pour le détourner totalement de son Dieu et le rendre infidèle à Dieu et faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour reprendre le langage du verset 6. Donc, cela nous montre ici que le problème de Salomon, tout cela pour dire que le problème de Salomon n'était pas uniquement la question de l'union d'un croyant avec des incroyants, d'un mariage avec des incroyants, c'était la question de l'union avec les incroyants. Vous comprenez? Et ici, et bien entendu, la question des affections, à savoir que son cœur n'était pas intègre, ne fut pas intègre avec l'Éternel, son Dieu. Son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. À savoir, il y avait des choses qu'il aimait plus que Dieu. Parce que nous ne lisons pas que Salomon abandonna tout à fait Dieu, mais nous lisons à son sujet que, au verset 6, il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. À savoir, son cœur fut détourné vers d'autres dieux, pas à l'exclusion de Jéhovah, mais en plus de Jéhovah. Vous comprenez? Donc, il y avait une question dans son cœur d'affection qui furent détournées du Dieu à qui il aurait dû offrir une adoration parfaite et totale, comme David l'avait fait. Ce qui nous conduit de nouveau à cette réflexion autour du passage des paroles de Jésus, où Jésus disait, qu'est-ce que nous avions lu ? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dites-moi, frères et sœurs, à la lumière de cette lecture et dans le contexte de cette réflexion ici, comment notre cœur est-il détourné de Dieu ? Si nous apprenons de l'exemple qui nous est laissé dans Salomon, n'est-ce pas, lorsque nous faisons des ennemis de Christ nos amis, nous avons l'illustration en Salomon, c'est-à-dire qu'il prie pour ses femmes, hein, avec qui il devint un, en principe, il prie pour ses femmes ce que Dieu avait voué à l'interdit. Lorsque nous faisons des ennemis de Christ nos amis et que nous changeons l'épée en paix parce que nous aimons plus nos époux, nos femmes ou nos maris, nous aimons plus nos femmes ou nos maris, nos pères ou nos mères, ou nos fils ou nos filles, nos petits-fils et nos petites-filles, plus que nous n'aimons Jésus-Christ. N'est-ce pas alors que notre cœur est détourné de Dieu ? Hein? Nous nous attachons à eux par l'amour, comme il était écrit au sujet de Salomon qu'il s'attacha à ces nations que Dieu avait formellement interdit à son peuple de s'allier avec. Mais maintenant, dans le contexte des relations humaines, affectives et familiales, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne peut être mon disciple, disait Jésus. Son cœur a été détourné, sa priorité a été renversée. Il ne peut être mon disciple si sa priorité n'est plus, je ne suis plus sa priorité. Hein? Lorsque nous nous attachons à nos membres de famille par l'amour, par nos affections. Et ensuite, que se passe-t-il ? Eux, nos membres de famille, qui ne suivent pas le Seigneur, comme nous désirons suivre le Seigneur, que font-ils ? Ils détournent nos cœurs de Dieu et vers le monde, après d'autres dieux, pour reprendre le langage qui était employé au sujet du roi Salomon. Et alors, dans de telles conditions, ne peut-il être pas dit également de nous, déclaré de nous au ciel, que notre cœur n'est plus intègre avec l'Éternel ? Et que nous ne suivons plus pleinement l'Éternel. J'aimerais ici, dans la ligne de cette méditation, lire la citation suivante qui se trouve dans Patriarches et Prophètes à la page 141 et au paragraphe 1, où l'esprit des prophéties nous aide à cerner l'esprit qui peut nous animer si nous correspondons à cette citation et à ces paroles de Jésus. Et que notre cœur a été, malgré nous, détourné. Je le lis. Patriarche et Prophète, page 141, paragraphe 1. Prenons garde de traiter à la légère les moyens de salut que Dieu met à notre disposition. Il est des chrétiens qui disent « Je ne tiens pas à être sauvé si mon épouse ou mon époux et mes enfants ne le sont pas. » Qu'est-ce que c'est? Il est des chrétiens qui disent « Je ne tiens pas à être sauvé si mon époux et mes enfants ne le sont pas. » Ces personnes qui pensent que le ciel ne sera pas pour elles un lieu de bonheur parfait, sans la présence d'êtres qui leur sont si chers, comprennent-elles bien ce qu'elles doivent à Dieu pour sa grande bonté? Ont-elles oublié qu'elles sont liées au service de leur Créateur et Rédempteur par des liens ineffables d'amour, d'honneur et de loyauté? Parce que nos proches, c'est-à-dire nos membres de famille, parce que nos proches rejette l'amour d'un sauveur qui leur tend les bras, comme à tous, lui tournerons-nous le dos, nous aussi? Un être qui apprécie à sa valeur le prix infini offert par le sauveur pour racheter son âme, et par conséquent qui apprécie le prix de cette âme, ne peut mépriser la miséricorde divine parce que d'autres choisissent de le faire. Le fait même que des gens font fi, c'est-à-dire méprisent, les justes droits de Dieu, devrait susciter en nous un désir d'autant plus grand d'honorer Dieu nous-mêmes et d'entraîner tous ceux que nous pouvons influencer à accepter son amour. Qu'est-ce que c'est? Il y a des personnes qui disent « Si je ne veux pas être sauvé si mon époux, mon épouse et mes enfants ne sont pas avec moi. C'est tout ou rien. Je ne veux pas être sauvé si mon épouse et mes enfants ne sont pas sauvés avec moi. Soit nous sommes tous sauvés, soit nous sommes tous perdus. » N'est-ce pas? Certains sont animés comme ça, l'esprit de prophétie nous dit. Il y a des chrétiens qui disent cela, qui disent soit nous sommes tous sauvés, soit nous sommes tous perdus. Je ne vais pas au ciel sans mes enfants, sans mon époux, sans mon épouse. Et que dit l'esprit de prophétie? Ces personnes-là, qui pensent que le ciel ne vaudra pas le coup s'ils doivent le vivre sans leurs êtres chers, ces personnes-là comprennent-elles bien ce qu'elles doivent à Dieu pour sa grande bonté? C'est-à-dire qu'il y a une cécité qui est provoquée par ce sentiment ici qui est ainsi exprimé par l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que c'était la question? Parce que nos proches rejettent l'amour d'un sauveur qui leur tend les bras comme à tous, lui tournerons-nous aussi le dos? Si nos proches tournent le dos à Jésus, est-ce que nous aussi nous nous détournerons de Jésus et nos cœurs donc seront détournés comme Salomon? Vous voyez le langage qui est employé ici? C'est comme ça que c'est en anglais. En anglais, c'est « Shall we turn away? Shall we also turn away? Lui tournerons-nous le dos, nous aussi? » Littéralement, « Nous détournerons-nous aussi? » Est-ce que nous nous détournerons? Est-ce que nous permettrons à nos cœurs d'être détournés par le monde et par nos membres de famille qui nous sont si chers et sans lesquels nous ne voulons pas aller au ciel? Vous voyez? La question, est-ce que nous comprenons vraiment le prix de l'âme qui a été rachetée à un tel prix par notre Sauveur, un prix infini, nous lisons. Et donc, je ne veux pas être sauvé si ma compagne et mes enfants ne sont pas sauvés avec moi, tel est le langage de beaucoup de chrétiens. Quelle est, frères et sœurs, quelle est et quelle sera l'influence de nos membres de famille sur nous si nous nourrissons à leur égard une affection du genre que nous avons lu ici? Si nous nourrissons à leur égard une affection pervertie, une affection détournée? J'aimerais le lire ici dans cette citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans Bible Commentary, volume 4, page 1155 et paragraphe 8 et 9. Les alliances conclues par les Israélites avec leurs voisins païens leur firent perdre leur identité de peuple particulier de Dieu. Leur identité, notre identité peut être perdue par nos alliances, par les compagnies que nous faisons. Même si ce sont des compagnies de nos propres parents. Les alliances conclues par les Israélites avec leurs voisins païens leur firent perdre leur identité de peuple particulier de Dieu. Ils se laissèrent contaminer par les mauvaises pratiques de ceux avec qui ils avaient conclu des alliances interdites. Leur affiliation au mondain leur fit perdre leur premier amour et leur zèle pour le service de Dieu. Les avantages qu'ils cherchèrent à obtenir en se vendant eux-mêmes ne leur apportèrent que déception et entraînèrent la perte d'un grand nombre d'âmes. Qu'est-ce que c'est? Ils, ayant fait alliance, ayant conclu des alliances avec leurs voisins païens, ils finirent par se laisser contaminer par les mauvaises pratiques de ces personnes avec qui ils avaient conclu des alliances interdites. Donc vous voyez, c'est la pente descendante. Donc un pas en avant, on entraîne un deuxième, et ensuite c'est la dégringolade de l'intégrité. Rappelez-vous, au sujet de Salomon, nous lisons que son cœur ne fut pas intègre avec Dieu. En effet, comment pouvait-il l'être? Vous voyez, c'est donc un choix qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Et donc le diable, après, il se rit de nous. Il dit, continue à t'embourber, etc. Vous comprenez? Le détournement du cœur. Leur affiliation au mondain leur fit perdre leur premier amour. Rappelez-vous, le langage de Jésus à l'église d'Éphèse est un langage qui est tout particulièrement adapté et approprié aux Laodicéens en cette dernière période, à savoir, j'ai ceci contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ici, l'esprit de prophétie nous fait le lien étroit entre notre affiliation au monde et aux mondains et à nos proches mondains, parents, enfants, etc. Fait le lien avec la perte, entre ceci et la perte de notre premier amour, la perte de notre zèle pour le service de Dieu. L'esprit de prophétie nous apprend aussi que les avantages qu'Israël cherchèrent à obtenir en se vendant eux-mêmes ne leur apportèrent que déception et entraînèrent à la perte d'un grand nombre d'âmes. Donc nous cherchons à y trouver des avantages, nous pensons qu'il y en a, en réalité ce n'est que grande déception des attentes. Plus encore, l'expérience d'Israël, donc l'expérience que fit Israël, telle que nous venons de la lire, sera l'expérience de tous ceux qui vont puiser leur force dans le monde en se détournant du Dieu vivant. Ceux qui abandonnent le Dieu puissant, la source de toute force, et qui s'associent aux mondains, dépendant d'eux, deviennent faibles en force morale, comme ceux en qui ils se confient. Qu'est-ce que c'est? Nous perdons la force morale. Nous sommes moralement affaiblis lorsque nous abandonnons, comme Salomon, le Dieu vivant, et que nous nous associons aux mondains et que nous commençons à dépendre d'eux. Notre vie est entremêlée à la leur. Nous ne pouvons même plus faire de distinction. Qu'est-ce qui se passe? Notre force morale s'est affaiblie. Le diable, il nous tire vers le bas constamment. À cause de quoi? Notre affiliation avec les mondains, qu'ils soient des étrangers ou nos proches, juste au bas de notre porte, juste au seuil, là, juste à côté. Voilà ce que cela produit. L'expérience d'Israël, hein, à travers ces alliances conclues avec les païens, sera l'expérience de tous ceux qui vont puiser leur force dans le monde en se détournant du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se puiser notre force dans le monde sans nous détourner du Dieu vivant. C'est ce que Salomon a fait et c'est l'exemple de cela que nous avons en lui. Donc, frères et sœurs, pour poursuivre ici, quel est un des facteurs affaiblissants dans le contexte de ces relations affective pervertie. Un des facteurs. On le lit ici dans cette citation du foyer chrétien, de l'esprit de prophétie, le foyer chrétien, à la page 383, paragraphe 1. Premier paragraphe pour commencer. Nous sommes ici en train de nous concentrer sur un sujet tout particulier, non pas à l'exclusion des autres, mais pour lui faire justice. Pour lui faire justice afin que nous saisissions puissamment l'impact de ce genre de relation piégée dans lequel, comme nous allons le voir, si nous ne l'avons pas déjà conclu, dans lequel l'ennemi cherche à nous plonger. Pourquoi ? Pour détourner notre cœur et que notre cœur ne soit plus intègre avec Dieu en cette période où Jésus cherche à sceller son peuple. Si nous ne sommes plus intègres, nous sommes comme tremblants. Les anges ne veulent pas sceller son peuple. Nous sommes comme ci, comme ça, un jour comme ci, un jour comme ça. Pourquoi ? Parce que notre affiliation, le détournement de notre cœur nous rend double de cœur. Vous comprenez? Son cœur n'était pas apostasié, il était détourné. On pourrait peut-être lire apostasié, il faut que je voie. De toute évidence, il était question de sa part d'un manque total d'intégrité. Il n'avait pas complètement abandonné l'Éternel, mais il était clairement dans une condition de rébellion. Hein? Nous avions lu dans un roi, qu'est-ce que c'était? Nous avions lu dans ce passage que nous lisions que il n'avait pas obéi à la parole que Dieu lui avait enjointe, à cet ordre de ne pas aller après d'autres dieux. Je lis ici donc Foyer chrétien, à page 383, paragraphe 1, au sujet donc de certains facteurs affaiblissants dans le contexte de ces relations affectives perverties. Je lis Foyer chrétien, page 383, paragraphe 1, il est écrit « En prenant des dispositions en faveur de vos parents, à savoir le mot « parent » ici, c'est le mot « relatives » en anglais, à savoir ce qui veut dire « membre de famille ». En prenant des dispositions en faveur de vos parents ou de vos membres de famille, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Vous êtes dépositaire des biens du Seigneur. C'est aux exigences divines que vous devez accorder la priorité. À savoir, cette citation ici, elle commence en parlant des testaments. Dans le contexte ici, je n'ai pas pris le début parce que ça parle beaucoup des testaments. Et donc cette citation, elle parle des testaments. Donc, une personne qui est âgée, malade, en proie à être mise dans la tombe, est appelée à faire son testament pour ce qu'il adviendra de ses possessions. Et donc, dans le contexte de cette citation, il est écrit ceci. « En prenant des dispositions en faveur de vos membres de famille, n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. » Vous êtes dépositaire des biens du Seigneur. C'est aux exigences divines que vous devez accorder la priorité. Il ne s'agit pas naturellement de laisser votre femme et vos enfants dans la misère. Selon leurs besoins, vous devez prendre des mesures en leur faveur. Mais ne faites pas figurer sur votre testament, simplement parce que c'est la coutume, une longue liste de parents, savoir membres de famille, qui ne sont pas dans le dénuement. Vous avez donc ce facteur ici de la pression des coutumes. Hein? Lorsque nous faisons les choses simplement parce que c'est la coutume et que nos biens et les biens de Dieu, parce que nos biens sont à Dieu, ils sont confiés à nous par Dieu, lorsque nos biens et les biens de Dieu sont détournés de l'usage qu'il souhaiterait qu'on en fasse. Je poursuis ici dans le paragraphe, c'est donc Foyer chrétien, page 383, maintenant paragraphe 4. Vous allez voir maintenant, c'est plus précis et ça va droit au but. Les parents devraient prendre bien garde en confiant à leurs enfants les richesses que Dieu a placées entre leurs mains, d'être tout à fait sûrs que ceux-ci s'intéressent à la cause de Dieu, que ceux qui l'aiment et s'y dévouent autant qu'eux-mêmes, qu'ils seront même plus sincères et plus zélés qu'eux en faisant progresser cette œuvre, et plus généreux quand il s'agira de promouvoir les diverses entreprises qui s'y rattachent et qui nécessitent des fonds. Mais, notez bien, mais de nombreux parents abandonnent leurs biens à leurs enfants, se déchargeant sur eux de leur responsabilité de gérant, et cela parce que Satan les y pousse. Ce faisant, ils placent véritablement leur fortune entre les mains de l'ennemi. Ce dernier agit de manière à réaliser ses propres projets afin de priver la cause de Dieu de moyens dont elle a besoin et qui pourraient la soutenir efficacement. Quel est l'un de ces facteurs ici, qu'est-ce que j'avais dit, affaiblissant pour les enfants de Dieu dans ce contexte de ces relations perverties? Parce que rappelez-vous, Salomon appartenait à Israël, le peuple de Dieu. Salomon était un enfant de Dieu. Il n'était pas juste un roi, il était un enfant de Dieu. Et Dieu et le diable chercha à détourner l'influence de son peuple ainsi que leur fonds, les moyens du peuple de Dieu. Il chercha à les détourner de leur objet, détourner du dessein qu'il avait et de l'usage qu'il désirait que Salomon et que le peuple d'Israël fassent de ses biens. Maintenant, si vous reprenez cet exemple, dans le contexte de ce que nous sommes en train de lire, l'esprit de prophétie nous parle de parents qui, qu'est-ce que c'est ? Abandonnent leurs biens à leurs enfants et se déchargent sur eux de leur responsabilité de gérant parce que Satan les y pousse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, voilà, nous sommes là, nous aimons nos enfants, quoique eux n'aiment pas Dieu, et nous leur confions tous nos biens, soit par testament, soit même lorsque nous sommes vivants, nous nous mettons pour ainsi dire à la rue, et qui fait cela ? Qui nous pousse à cela ? C'est le diable. Le diable nous pousse dans ce précipice, et ensuite il nous pousse encore, il nous pousse, et dit va plus loin encore, va plus profond encore. Et ainsi, nous sommes dépouillés de tous les biens que nous aurions pu consacrer à une bonne cause. Et nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce que c'est ? Ce faisant, ils placent véritablement leur fortune entre les mains de l'ennemi. Ce dernier agit de manière à réaliser ses propres projets. Donc, en fait, l'argent, il ne va pas du tout pour les projets de Dieu. Maintenant, l'argent, eh ben, il est destiné à... C'est le diable, parce que le diable, il va... Lorsque des personnes ne servent pas Jésus-Christ, leur utilisation de leur argent qu'ils possèdent, qui leur a été confié, ou des biens qu'ils possèdent, maintenant, c'est l'équivalent que si c'était comme si c'était le diable qui utilisait ces moyens-là. Vous comprenez ? Les enfants de la rébellion, ce que nous lisions dans Éphésiens chapitre 2. Si nous ne servons pas Jésus-Christ, nous servons le diable, nous faisons partie des enfants du diable, la postérité du serpent, et notre utilisation de nos biens, c'est comme l'utilisation des biens du diable. Vous comprenez ? Donc nous voyons cette mise en garde solennelle vis-à-vis de la manière dont les parents devraient confier ou ne pas confier leur richesse à leurs enfants. Ils devraient, qu'est-ce que c'est ? S'assurer que leurs enfants s'intéressent à la cause de Dieu. Avant même que nous, en tant que parents, nous confions nos richesses ou nos biens, que nous les léguions tout à nos enfants, nous devrions faire quoi premièrement ? Nous assurer qu'ils s'intéressent à la cause de Dieu, qu'ils l'aiment. Et pas juste cela, mais qu'ils s'y dévouent, qu'ils se dévouent à la cause de Dieu autant qu'eux-mêmes, autant que nous-mêmes. Les parents devraient s'assurer que leurs enfants seront même plus sincères et plus zélés qu'eux en faisant progresser cette œuvre et plus généreux quand il s'agira de promouvoir les diverses entreprises qui s'y rattachent et qui nécessitent des fonds. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez la question du détournement du cœur? Le détournement du cœur, c'est pas justement le cœur. C'est le cœur et tout l'argent. Tout qui va dans le sens où le diable il a décidé. Le détournement du cœur. Mais nous ne voulons pas terminer sur une telle note toutefois. Réfléchissons, faisons le récapitulatif de ce que nous avons vu pour le moment. Nous voyons que, et si vous appliquez ce principe que nous venons de lire à des réalités pratiques, le fait est que certains parents croyants aiment tellement leurs enfants qu'ils seraient presque prêts à être mis à la rue afin de pouvoir pourvoir à tous les plus petits besoins de leurs enfants ou petits-enfants qui ne craignent même pas Dieu. Qui ne craignent même pas Dieu. Et ensuite, ils sont mis à la rue, pour ainsi dire, ils n'ont presque plus rien, même pas un toit à appeler leur toit, parce qu'ils ont tout, légué toute leur richesse à leurs enfants qui ne craignent même pas Dieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce que c'est? Nous avons lu, Satan les a poussés à cela. Ce que nous venons de lire ici, vous voyez? Donc l'Esprit de prophétie donne cette injonction, ce conseil ici qui pourrait nous faire tant de bien, préserver tant de ruines. Mais de nombreux parents abandonnent leurs biens à leurs enfants, se déchargeant sur eux de leur responsabilité de gérant, et cela parce que Satan les y pousse. Vous comprenez ici? Nous sommes démunis. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons confié notre responsabilité à des personnes qui n'ont même pas l'esprit pour les gérer judicieusement, selon Dieu. Donc, frères et sœurs, nous sommes ici en train de parler du cœur, du détournement de notre cœur. Nous avons vu, au sujet de cette question des biens, vis-à-vis des parents à leurs enfants, ou même des enfants à leurs parents, la question est de savoir le bien, dans quelle direction va-t-il? Va-t-il à quelqu'un qui craint Dieu, qui va servir Dieu, ou l'argent va-t-il être dilapidé et le diable s'en va rigoler? C'est ça la réelle question. Tout cela est un piège diabolique des affections. C'est ça la réelle source du problème, ce sont les affections. Si le problème des affections n'était pas là, une telle chose n'arriverait jamais. Mais le problème, c'est que nos affections sont là, nous disons, oui, mais j'aime tant mon enfant, je veux que moi et mes enfants nous soyons sauvés. C'est ça le réel problème. Et nous voulons explorer à ce sujet. Comment est-ce que l'esprit de prophétie décrit la mentalité néfaste d'un cœur qui a été détourné? Nous lisons ici, dans Testimonies for the Church, volume 2, et page 76. Testimonies for the Church, volume 2, page 76, paragraphe 3 et suivant. Notez bien. Vos intérêts, vos efforts et vos inquiétudes portent sur votre famille et vos parents, c'est-à-dire membres de famille, sur votre famille et vos parents ou proches. Mais vous n'avez pas songé à tendre la main à ceux qui vous entourent, à surmonter votre réticence à exercer une influence en dehors d'un cercle particulier. Vous idolâtrez les vôtres et vous vous renfermez sur vous-même. Votre grand fardeau, c'est que le Seigneur nous sauve, moi et les miens. Oh, que le Seigneur nous sauve, moi et les miens. Cet esprit devra mourir avant que vous ne puissiez vous épanouir dans le Seigneur et progresser spirituellement. Avant que l'Église ne puisse grandir et que des âmes ne lui soient ajoutées parmi ceux qui doivent être sauvés. Que devra-t-il arriver à cet esprit avant que nous puissions croître, grandir et que l'Église puisse prospérer? Cet esprit devra mourir avant que vous ne puissiez vous épanouir dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que nous pouvons nous épanouir? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons nous épanouir dans le Seigneur? Des fois, nous disons, Seigneur, je me sens mal. Et d'où ça vient cela? Le cœur, il est détourné, mes frères et sœurs. Le cœur, il est détourné. Les affections, elles ont été perverties. Le Satan nous a poussés. Et nous sommes dans le précipice. Et nous sommes en train de nous détouffer dans le bourbier. à cause que nos affections nous ont joué des tours. Nous avons perdu tant d'argent, tant de biens pour moi et les miens. Moi et les miens, alors que les miens n'ont même pas un seul, la moindre once d'intérêt pour mon Jésus. Vous voyez, la perte du cœur et des fonds. Mais, qu'est-ce que c'était? Vous idolâtrez les vôtres et vous vous renfermez sur vous-même. Hein? Rappelez-vous, le message de l'évangile, c'est la bonne volonté envers les hommes. Mais nous disons la bonne volonté envers moi et les miens. C'est ça l'évangile, moi et les miens. Non, 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 ce n'est pas cela. Votre grand fardeau, c'est que le Seigneur nous sauve, moi et les miens. Et Jésus dit, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi j'ai donné ma vie. Cet esprit-là, l'esprit de prophétie nous dit, le témoignage de Jésus, cet esprit devra mourir avant que vous ne puissiez vous épanouir dans le Seigneur et progresser spirituellement, avant que l'Église ne puisse grandir et que des âmes ne lui soient ajoutées parmi ceux qui doivent être sauvés. Je poursuis. Votre travail pour les autres est trop restreint et vous devez changer le champ de vos activités. Vos proches ne sont pas plus chers aux yeux de Dieu que les autres pauvres âmes qui ont besoin d'être sauvées. Nous devons mettre le moi et l'égoïsme sous nos pieds et illustrer dans notre vie l'esprit d'abnégation et de bienveillance désintéressée manifestée par Jésus lorsqu'il était sur la terre. Hein? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre le moi et l'égoïsme sous nos pieds et mettre une fin à cet esprit de moi et les miens. Nous devons être sauvés, Seigneur, et de moi et les miens. Non, stop! Cet esprit devra mourir. Arrêtons de parler de moi et les miens. Tous devraient s'intéresser à leurs proches. Oui, nous devrions nous intéresser à nos proches pour leur salut. Mais avec sagesse, discernement, pas avec des affections détournées. Rappelez-vous le détournement du cœur. Qu'est-ce que cela voulait dire, le cœur? Les affections. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ce sont les affections. Tous devraient s'intéresser à leurs proches, mais ne devraient pas se limiter à eux comme si ceux-ci étaient les seuls que Jésus était venu sauver. Nous avons comme une vision très très étroite, comme ces Inuits qui avaient pour guise de lunettes de soleil des morceaux en bois avec des fentes très étroites. Nous ne voyons que moi et les miens. Mais oui, nous devrions nous intéresser à nos proches, mais nous ne devrions pas nous limiter à eux comme s'ils étaient les seuls que Jésus était venu sauver. Il est venu pour les sauver, mais pas que eux, tous les autres. Tous les autres, ceux qui ne sont pas de mon sang, ceux qui ne sont pas de moi et les miens, Jésus est venu pour les sauver eux aussi. Lisons maintenant la citation. Je vais essayer de conclure avec la citation suivante qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 5, page 542 et paragraphe 2, qui nous dit ceci. En lien avec tout ce que nous venons de voir, vous n'avez pas perçu le danger auquel vous vous exposez en vous associant si librement à vos proches. Ceux-ci ont eu une influence bien plus grande sur vous et les vôtres que vous n'en avez eu sur eux. Le fait qu'ils soient vos proches ne les rend pas moins nuisibles à votre bien-être spirituel, ni moins transgresseurs de la sainte loi de Dieu. Leur conduite est tout aussi offensante envers Dieu que celle de tous ceux qui refusent la lumière et la vérité, et qui refusent d'écouter toute preuve en sa faveur. Ils ont laissé des impressions négatives sur votre esprit et ont influencé votre ligne de conduite. Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre le salut à notre portée, mais il ne nous l'imposera pas contre notre volonté. Il a posé des conditions dans sa parole et nous devrions avec zèle, avec intérêt, avec le cœur et l'esprit, nous atteler à la tâche d'apprendre ces conditions, de peur de commettre nous-mêmes une erreur et de ne pouvoir garantir notre titre pour les demeures célestes. Etc. Je ne vais pas lire tout le reste. Mais à la lumière de ces choses-là, j'aimerais quand même finir sur cette note importante. À savoir, vous avez vu, ils ont eu une influence bien plus grande sur vous que vous n'en avez eu sur eux. C'est-à-dire que notre lien, notre effort démesuré pour les miens, moi et les miens, il est dû sur le fait que nous pensons, comme Salomon jadis, que notre influence sera si salvatrice sur eux. Mais nous ne réalisons pas que l'influence des miens, de nos proches, qui ne craignent pas Dieu, sera délétère. Si tel est leur cœur, et que notre cœur est détourné par leur influence, ils auront une influence plus grande sur nous que nous sur eux. C'est ce que nous venons de lire ici, ainsi que d'autres choses. Donc nous voyons que l'égoïsme familial n'est pas à la hauteur de l'esprit, de l'amour divin qui nous a été révélé dans l'Évangile. Et à la lumière donc, en contemplant la profondeur de du détournement de notre cœur, nous voulons réfléchir à la vocation et à l'appel que Dieu nous lance dans Osée chapitre 14. Osée chapitre 14 versets 1 à 4, où il nous est dit ceci, où Dieu, à la lumière du profond détournement de notre cœur et du détournement de nos affections et de notre perte d'intégrité et des influences négatives que nous avons, auxquelles nous avons été soumises et auxquelles nous nous sommes nous-mêmes exposés par l'amour. Il nous dit ceci dans Osée chapitre 14 verset 1. Israël, convertis-toi à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui de point, pardonne toute iniquité et reçois le bien et nous t'offrirons pour sacrifice la louange de nos lèvres. Assur ne nous délivrera pas. Nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux. Hein, l'ouvrage de nos mains, nos enfants. Vous êtes nos dieux. Moi et les miens, nous devons être sauvés. Que Seigneur, sauve-moi et les miens. Non, nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux, car c'est en toi que l'orphelin trouve compassion. Je guérirai leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est détourné d'eux. Je serai comme une rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il jettera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, sa magnificence sera celle de l'olivier, il aura le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront fructifier le froment, ils fleuriront comme la vigne, leur renommée sera comme celle du vin du Liban, etc. Et c'est intéressant parce qu'en anglais, il a marqué ils revivront comme le froment. Comme si le froment avait été écrasé et qu'on dirait qu'il n'y a plus d'espoir, ils revivront. Leur cœur a été détourné, mais ils reviendront à l'Éternel. Qu'est-ce que c'était ? Israël, convertis-toi à l'Éternel, reviens à l'Éternel, comme c'est marqué en anglais, je crois. Car tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles. Quelles paroles ? Les paroles que Dieu nous donne. Parfois, nous venons à Dieu avec nos paroles. Nous disons, merci Seigneur, tout va bien, merci, veux-tu bénir moi et les miens, que moi et les miens soyons sauvés et que nous puissions entrer dans ton royaume à la fin. Amen. Et Dieu dit, viens pas avec tes paroles, viens avec les paroles que je t'ai dit et dis à l'Éternel, pardonne toute iniquité et reçois le bien. Le bien que Dieu veut, pas le bien que nous lui voulons lui donner. Et nous t'offrirons pour sacrifice la louange de nos lèvres. Et ensuite, il est déclaré à notre sujet que Dieu fera fructifier ce renouveau. Il nous donnera une nouvelle vie. Il nous donnera cette conversion par Jésus-Christ. Et cela nous renvoie à ces paroles de 2 Chroniques, chapitre 29. Par quoi je vais conclure. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 5 à 11. Au sujet d'Ézéchias. Donc, vous aviez la fidélité de David, ensuite vous aviez l'infidélité profonde de Salomon qui entraîna de nombreuses années de décadence et d'apostasie parmi Israël, et ensuite vous avez le roi Ézéchias qui se réveilla de la stupeur de ses confrères et de ses anciens, de ses ancêtres. Et nous voyons ici le principe qui ressort de son réveil spirituel dans 2 Chroniques chapitre 29 verset 5, où je lis. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, sanctifiez-vous maintenant et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et ôtez du sanctuaire la souillure. Car nos pères ont péché et fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Qu'est-ce que nous avions lu? Parce que d'autres refusent d'accepter l'amour du Sauveur, lui tournerons-nous également le dos? C'est ce qu'ils avaient fait. Nos pères ont péché, ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel. Le détournement du cœur. Et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, ont éteint les lampes. Vous comprenez? Donc le détournement de notre cœur, notre affiliation avec les mondains, qu'ils soient des étrangers, des inconnus, ou nos propres proches et membres de famille, époux, enfants, petits-fils, parents, cela a un impact sur notre premier amour et sur notre zèle pour le service de Dieu. Et nous lisons à sujet de cela qu'ils avaient même fermé les portes du portique, avaient éteint les lampes, ils n'ont point fait fumer le parfum, ils n'ont point offert l'holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Et donc, Ézéchias est en train de dire, ôtez la souillure du sanctuaire. Cette souillure de l'indifférence, cette souillure de l'oubli, cette souillure de l'apostasie du cœur, du détournement du cœur, ôtez la souillure. Et ensuite, il est écrit au verset 8, « C'est pourquoi le courroux de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux, et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. » Maintenant donc, j'ai l'intention de traiter alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que l'ardeur de sa colère se détourne de nous. Or, mes enfants, ne soyez pas indifférents, car l'Éternel vous a choisi afin que vous vous teniez devant lui pour le servir, pour être ses serviteurs, pour lui offrir le parfum. Pour lui offrir le parfum. Et l'Évangile nous appelle, frères et sœurs, je vais conclure sur cela. L'Évangile nous appelle à être une bonne odeur de vie vivifiante, une bonne odeur de Christ donnant la vie. Nous sommes appelés à être comme ces Lévites, des serviteurs, des sacrificateurs. Les chrétiens sont des sacrificateurs. Jadis, il y avait les services du Lévitique, les services du sanctuaire. Ce service a été aboli à la croix. Maintenant, il est accompli en Jésus-Christ et tous les croyants sont appelés à être des sacrificateurs. Mais en tant que sacrificateurs, nous ne pouvons pas avoir des cœurs qui sont détournés. Parce que lorsque nos cœurs sont détournés, eh bien, nous ne pouvons servir Dieu. Nous allons alors fermer les portes du portique, éteindre les lampes, ne pas faire fumer le parfum. Nous n'allons pas ouvrir l'holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Nous allons juste offrir les formes et Dieu va considérer cela comme rien du tout. Et donc, nous voulons revenir à l'Éternel, ne plus être indifférent, nous que l'Éternel a choisi, pour nous tenir devant lui, pour le servir tous les jours dans son temple. Langage d'Apocalypse chapitre 7, au sujet des 144 000. Donc voilà, frères et sœurs, je vais conclure ici aujourd'hui. Je vous fournirai toutes les citations que j'ai lues, ainsi que d'autres que je n'ai pas pu lire. Ma prière, c'est que nous puissions prendre à cœur ce que le Seigneur cherche à nous faire comprendre au sujet du détournement de notre cœur et de notre retour à l'Éternel. De tout notre cœur. Jésus disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il savait très pertinemment que beaucoup dans Israël connaissaient très bien l'histoire de rois et d'hommes parmi le peuple de Dieu qui n'avaient pas fait cela, dont le cœur avait été double, qui s'était détourné de Dieu, qui avait aimé Dieu comme ci, comme ça. Puissions-nous ne pas aimer Dieu comme ci, comme ça, frères et sœurs, et offrir à Dieu l'offrande d'un cœur qui s'immole lui-même. Lorsque nous posons le moi et l'égoïsme sous nos pieds, que nous l'écrasons avec joie, et que nous voyons et que nous prenons réellement notre croix, que nous ne conservons pas notre vie, mais que nous sacrifions notre vie afin de pouvoir la gagner. Et cela a de nombreuses connotations, y compris les relations que nous nourrissons, cultivons avec nos proches. L'esprit de prophétie ici nous disait, dans une autre citation que je n'ai pas lue, que si nos proches ne veulent pas de notre Sauveur, ne veulent pas de sa vérité, comme nous la voulons, eh bien, le moins nous les fréquentons, le mieux ce sera pour notre spiritualité. Il nous faut prendre les choses au sérieux maintenant, frères et sœurs, pour, si nous voulons, la moindre espérance solide de pouvoir nous garantir des titres pour les demeures célestes. Parce que, autrement dit, nous mettons en jeu à la fois notre vie éternelle et également celle de ceux auxquels nous cherchons à faire du bien. Parce que Salomon s'imaginait que finalement, malgré toutes ces apostasies et toutes ces infidélités, il allait conduire les hommes par son influence, d'une certaine manière, à révérer la loi de Dieu. L'esprit de prophétie nous dit que cela ne serait jamais arrivé. Et cela n'arrivera jamais non plus dans notre vie si notre exemple est un exemple de compromission où nous léguons tous nos biens à nos enfants sans aucune distinction de leur propre fidélité, de leur propre allégeance à la cause de Dieu. Il nous faut maintenant nous réveiller car nous n'avons que très peu de temps. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Puissions-nous ouvrir nos cœurs à la voix de l'Esprit de Dieu en ces heures tragiques dans lesquelles nous vivons. Et puissions-nous, alors que nous lui redonnons notre cœur, obtenir la paix. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.